Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 17e numéro du Player Club, Player Club Lite, comme la semaine dernière, et je vous rassure, c'est la dernière semaine de ce début d'année que ça va faire ça, un numéro avec donc une demi-heure d'inédit et une demi-heure de petits best-of, d'entrefilets, de bonnes choses, et on va faire ce première demi-heure d'inédit tout de suite avec mon ami Aspic. Aspic, bonsoir.
Salut Inks, et bienvenue dans FTL.
On a enlevé l'image.
Ouais, on est en mode duo.
C'est un speedrun du Player Club, on va faire 30 minutes au lieu d'une heure.
C'est ça, totalement.
Et on aura une demi-heure de rediff. Donc,
Faut pas dire ça maintenant, sinon les gens ils vont partir. Bah non,
Non. Tu sais pourquoi ils vont rester? Parce que ce soir, non seulement c'est pas Slustic après à partir de 22h en direct, c'est normal, les gens ont l'habitude maintenant. Vous pourrez réagir avec le hashtag LivePLS à leur émission quand ça commencera, ce sera l'actualité du jeu vidéo. Mais, nouveauté, désormais, c'est nos amis de Comics Outcast qui prennent le relais après pas Slustic, donc environ vers 23h, quand pas Slustic aura terminé de faire leur petite bêtise. Ça devient nocturne, mais c'est vraiment de la bonne parce que c'est aussi un peu d'esprit déconne. Donc pour les auditeurs de pas Slustic, je pense que ça va vous plaire si vous aimez PLS, et en même temps si vous n'aimez pas que le jeu vidéo, ça va vous plaire aussi parce que Comics Outcast, ça parle de comics.
J'allais dire de ciné, je sais pas pourquoi. Bonjour.
Très bien. Et c'est une émission Radio Kawa que vous pouvez récupérer donc sur radiokawa.com si c'est trop tard pour vous. Voilà, c'est dit. Donc on a du nouveau voisinage sur notre petite case horaire diffusée chez nos partenaires de Synopsave, où on est toujours aussi bien. Il faut le dire. Donc on est très heureux d'être là ce soir avec vous. Réagissez au hashtag Le Player Club pour réagir à cette émission, bien évidemment.
Je crois que t'allais dire au hashtag Respawn Live parce que j'ai cette habitude du jingle où tu dis réagissez au hashtag Respawn Live.
C'est plus le cas maintenant. On est passé au Player Club. C'est la nouvelle génération. Il y a l'Xbox One, il y a la PS4 et maintenant il y a le Player Club. C'est
la, la next gen. Comment on appelle ça, la génération qui est après la next gen?
On l'appelait la next gen en fait. On appelle la current gen l'actuelle et la next gen la suivante. C'est un principe relatif.
J'ai croisé l'autre jour un terme sur la new next gen. Non, je sais plus exactement.
Oui, genre mais
c'était moche.
Il y a des gens qui font la nomenclature, ils sont un peu cons. Mais bref, c'est d'autres considérations pour le coup. Donc ce soir, on va discuter avec toi l'identité sonore. On vient de l'entendre, par exemple le jingle du Player Club qu'on a entendu il y a un instant, ou les virgules du Player Club. Vous savez, les petits extraits de 3 petites secondes avec des petits instruments qui rappellent un peu le générique du Player Club. Donc voilà, c'est tout simple pour le coup. C'est ce dont on va vous parler ce soir. Petite réaction de Cyril TS qui nous dit « Ça veut dire que PLS pourra plus être en retard ?» Je lui dis « Vers 23h, donc ils pourront toujours être en retard. » C'est dans l'ADN de Pass le Stick d'être en retard. Voilà.
Toujours.
Bref, si vous avez des questions à poser à Aspic par rapport aux identités sonores des émissions Radio JV et Radio Kawa, c'est lui qui les fait, n'hésitez pas à les poser. Il a fait plein de jingles. On va un petit peu déjà te présenter sous cet angle-là quand même. Le Player Club, évidemment, tu parlais de Respawn tout à l'heure, t'avais aussi fait les jingles d'émissions qui ont aujourd'hui disparu, Respawn, Que le Grand Geek, Boudoir Gambetta. T'avais aussi fait le doctorat, t'avais aussi fait tu nous as aidé sur les tauliers, c'est très particulier.
J'essaie de voir, j'ai cherché dans mon iTunes pour tenter d'avoir la
Passe le Stick
que j'ai fait, mais j'ai complètement oublié
les jingles de Passe le Stick.
Ouais, c'est pas moi qui ai fait la musique de Passe le Stick.
Non, effectivement, et c'est pareil pour les tauliers. Tu nous as aidé sur celui-ci, mais t'as pas fait la musique non plus. T'as fait celui d'Allo Central, je regarde encore, t'as fait celui de LOL Japon. Enfin, vraiment gros carnet à ton actif.
Oui, t'es devant la liste des émissions sur radiojv.com là. C'est ça?
RadioJV.com et RadioKawa.com, évidemment.
C'est vrai, peut-être dans l'émission spéciale, j'ai des trucs.
C'est vrai. Mais toujours est-il donc.
Les Boudoir Gambetta, tu l'as dit?
Oui, bien sûr. Toutes les vieilles émissions. Bref, énormément. T'es aussi musicien. T'es aussi quelqu'un de bien, faut le dire.
Très bien.
Alors, dis-nous, comment est-ce que quelqu'un de bien vient à faire l'identité sonore de Player Club? Comment elle est née, cette identité sonore? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus qu'il y avait derrière? Généralement, c'est moi qui te contacte quand j'ai besoin de quelque chose.
Attends, tu me tues mon truc, j'allais commencer. Bah alors, elle est née, tu es venu me voir et tu m'as dit...
Bonjour, Aspic.
Non, alors, la vraie cuisine du truc, c'est que tu m'as prévenu déjà longtemps à l'avance qu'il y aurait un truc.
Parce en janvier, je crois. Janvier 2014, non? Début d'année.
Ça commence... Ouais, c'est de 2014.
2014, ouais. Voilà, ouais, on commence.
2015, mon Dieu.
On commençait à réfléchir un petit peu au Player Club.
En septembre 2014, cette émission.
Exactement.
D'accord, c'est ça, oui.
Ouais.
Donc tu m'as dit ça. Bon, forcément, je m'y suis pas mis avant août, évidemment. Mais je savais qu'il fallait le faire, donc. tu étais pris en flag de boire un verre d'eau, d'ailleurs.
Exact. Mais c'est comme ça dans le Player Club.
On rigole dans le verre d'eau.
Exact.
Et je me suis mis au travail et j'ai sorti mes petits crayons et mes petits instruments pour tenter de proposer une musique d'introduction tout simplement pour ce jingle. Et ça a été le pire parce que j'en avais d'autres à faire en parallèle. J'avais
oui. Allo Central,
c'était super facile. J'ai pris la guitare en mode un petit peu western et j'ai fait le jingle qu'on connaît tous ou pas. Foncez écouter Allo Central si c'est pas le cas. Ouais. Mais pour le Player Club, j'avais du mal. Donc j'ai soumis à Inks plusieurs versions. Et bon, alors lui, il est évidemment toujours philosophe. Oh, j'aime bien. Bon, alors c'est toujours moi qui se dis ouais, mais c'est de la merde. Écoute, mais c'est nul en fait, je suis pas content, j'aime pas.
Alors là, je vais te raconter un peu ma perspective du truc, ouais. Mais pour le coup, la première ébauche que tu m'as proposée, j'étais pas totalement convaincu, et même c'est la première fois vraiment que je t'ai limite refusé quelque chose, il me semble.
Ouais, je crois, ouais.
Oui, parce que celui-là, ensuite, il a été énormément retravaillé, il est reparti sur une autre émission. Là, pour prendre un proposition.
On nommera pas, voilà. Hein, voilà. Parce qu'on a de la race.
Non, voilà, exactement.
Ouais, non, j'étais pas convaincu. Enfin, en soi, c'était sympa, c'était de la bonne musique.
Oui.
Mais ça convenait pas, parce que quelle ambiance donner à un Player Club? Déjà, il y avait pas eu d'émission, je savais pas du tout quelle ambiance il y aurait dedans. Les tauliers, c'est facile, quoi. Il faut que ça dégouline de bière, de gras de bière. Vous savez, la substance qu'il y a sur les comptoirs de bar, et ça colle. C'est pas du gras parce qu'il y a pas de gras dans la bière, mais
c'est du sucre.
Il y a pas de sucre non plus dans la bière, si.
Non, mais c'est peut-être les gens qui boivent des coca qui les renversent, hein, qui sait,
bon,
les cocktails.
Voilà, c'est un truc baveux. Ouais. Là voilà, donc et finalement, je suis parti dans un délire un peu jazzy à base de contrebasse. Et là la plus grosse difficulté de l'affaire, c'est que ça fasse pas trop comique parce qu'on a quand même une contrebasse qui fait dong 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 dong. Bon voilà. J'ai essayé de faire un truc à mi-chemin entre le boudoir Gambetta pour l'ambiance on se pose dans des fauteuils rouges avec un cigare et un jeu de tarot pour faire un peu club, voilà. Et un autre aspect qui est je sais pas l'autre aspect, mais il y en a un, voilà.
À la fois convivial, un peu déconne.
Un peu quand même, ouais. Un peu prime time, émission qui revient toutes les semaines, en fait. Ouais. C'est pas un machin tous les deux mois où on invite un obscur invité de directeur de studio. Ça, c'était Boudor Gambetta. C'était sympa, d'ailleurs.
Mais... Oh, t'es pas sympa avec eux, là. J'y reçois encore ces gens-là, ils sont très sympathiques.
C'était cool, mais c'est vrai que c'était très posé, Boudor Gambetta. Là, je voulais un truc punchy tout en restant jazzy. Ouais. Et bon, je pense que j'ai réussi à trouver un truc sympa parce que King s'était rapidement convaincu.
Oui!
Et j'ai envoyé plein de maquettes différentes, avec une courbe d'évolution. Je crois qu'on a prévu d'abreuver nos auditeurs de quelques extraits.
Exactement. On va s'écouter tout de suite un petit medley qui va vous montrer les différentes évolutions du générique du Player Club. Vous allez voir, c'est saisissant.
Possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Alors avant de parler d'un détail qui t'est cher sur ce jingle, j'aimerais quand même qu'on évoque un autre truc qui est la question des voix, parce qu'on a d'abord entendu là, c'était la troisième version dans le medley sur les quatre, une version où c'est entièrement toi qui fais les voix.
Bah oui, parce que bon, normalement, qui dit jingle dit voix off, alors selon les émissions...
Ce soir, de minuit à minuit trente.
Soit c'est moi qui m'y que long, mais là, je voulais quelque chose de plus sympa, j'ai voulu guester le Mago, qui est donc la voix, qui a été la voix officielle de Synops Live depuis... 2008,
notre partenaire Synops Live.
Voilà, et qui a une voix bien comme ça, bien sympathique.
La radio
quand il l'a fait, ça fait moins forcé que moi, parce que quand je parle comme ça, on dirait que je suis vraiment constipé. Donc c'est pas génial. On a aussi convié Dame Duf, un autre collègue de mon groupe Magoyonde, qui lui apparaît, je crois, dans le retour antenne.
C'est pas, tu veux que je le diffuse?
Moi, je sais plus. On avait enregistré ça, mais vraiment, mais super vite.
J'ai l'impression qu'il est pas dedans. Tu veux qu'on écoute le retour antenne?
Ah ouais, si tu peux mettre un petit retour antenne, parce que, en tout cas, je l'ai enregistré. Je sais pas s'il a fini dedans. Pauvre.
Je me souviens plus, du coup.
Non, mais c'est ça le problème. Quand on enregistre des voix à l'arrache sans écouter vraiment la synchro, des fois, c'est juste pas synchronisé. On peut écouter la virgule.
On écoute.
De 21h à 22h, le Player Club.
Ouais. Verdict.
Il dit de 21h à 22h, c'est un truc qui dit le pauvre, il faut enregistrer 10 minutes, il y a que ça qui a survécu, quoi.
Et en fait, il a 5 mots.
C'est ça. Il a 5 mots.
Pauvre Dame Duf, pauvre Damien. La bise à Damien.
Voilà, parce qu'on a on a dû rusher un peu la toute finition au niveau des voix, parce que c'est dur de voir ces gens-là, ils sont très occupés.
Oui.
Voilà. Et donc, en attendant qu'il y ait toutes les voix, un truc qui est très important dans le jingle, c'est non pas en soi la musique. De base, quand même, le plus important, c'est l'ambiance musicale. La musique, on s'en fiche un peu tant qu'il y a l'ambiance. Et c'est surtout comment on se pose les voix par rapport à la musique. Parce que c'est très bien d'avoir une musique sympa, mais si t'arrives pas à en placer une, ça sert à rien. Le meilleur exemple là-dedans, c'est, je trouve, c'est le générique des Tauliers. Qui est quasi légendaire là-dessus, quoi. Il y a Ings qui alterne avec la batterie et ça donne un truc très bien et très punchy parce que c'est comme ça que ça marche. Alors, il faut une alternance.
Anecdote par rapport à ça, t'as rajouté de la percu sur le morceau original.
J'ai un peu renforcé la batterie parce qu'elle est un peu faiblarde dans l'original. Donc j'ai rajouté deux trois batteries, donc, deux trois grattes.
Pour les Tauliers, si vous écoutez le morceau original qui est donc de Houdini Roadshow qui s'appelle Riding with the Devil, et évidemment j'ai pas fait grâce
c'est
à ce mot-là.
Riding with the Devil.
Oui tout à fait.
C'est ça, ouais.
Vous entendrez la différence. Il manque de la percu sur la version originale de Houdini Roadshow.
Un petit peu surproduit le truc parce que je crois que c'est quand il a fallu rénover le jingle, donc j'ai mis la sauce.
Ouais.
Pour que ça soit vraiment punchy.
Ouais.
C'est un peu de triche, quoi, mais ça s'entend pas, donc c'est de la bonne triche.
Mais c'est bien que tu parles de caler les voix, parce que du coup, t'as fait une petite expérience, vu que t'avais pas de numéro du Player Club sous la main quand t'as fait le générique.
Oui, c'est surtout l'expérience au niveau du bed. Vous savez, le bed, c'est le petit tapis sonore qui...
Vous avez entendu au début de l'émission, si vous nous écoutez en téléchargement, pas en direct, mais en téléchargement, sur RadioJV.com.
C'est la petite musique qu'il y a au loin et qui est sympa. Il faut qu'elle soit, que ça reste en mode tapis. Il faut pas que ça soit une forêt de sapins. Oui. Parce que sinon, la voix passe pas. S'il y a trop d'éléments, perturbants et déconcentrants, des percussions, des trucs, une histoire de, même pas tant que ça de volume, mais de comment la musique passe par rapport à la voix, il faut qu'elle se fasse oublier. Et pour ça, j'avais besoin d'un mec qui parle en continu et qui n'est pas de bête, donc je suis allé piocher dans un
TVNR.
Voilà.
Donc on va entendre Alvin parler dans le Player Club, comme s'il le présentait, et c'est parti.
Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Et bonsoir à tous et bienvenue pour TVNR saison 2. Vous êtes déjà très nombreux à nous écouter pour le retour de TVNR pour une deuxième saison. On a changé de jour, maintenant on est le mardi soir à 21h. On est des chroniqueurs qui font du bruit avec leur micro, mais c'était pas très grave. On va vous tenir au courant de toute l'actu média, de tout ce qui s'est passé pendant l'été, de tout ce qui va arriver sur vos télés en cette rentrée. On parlera du talk de Jérémy Michalak face à la bande, qui ne marche pas très bien, on reviendra dessus. Et puis surtout, on va vous présenter les chroniqueurs qui sont avec nous pour faire cette deuxième saison de TVNR, à commencer par Lou, mon petit Alex le serveur. Est-ce que tu es là, mon petit Lou?
Bonsoir, oui, je suis là, je suis vivant, malgré l'émission de ta gueule qui est passée juste avant, en fait.
Eh bien, finalement, te voilà.
Direct du paradis, ou de l'enfer, je ne sais pas encore. Je vous dirai suivant si je commence à cramer ou pas.
En tout cas, tu nous raconteras tout ce que tu as prévu de regarder à la télé dans les mois qui viennent.
Et ça coupe, je savais pas que ça coupait aussi sec.
Ah oui, je l'ai coupé sauvagement, ça c'était juste un export pour...
J'aurais mis un jingle de retour. Voilà, alors ça, chers amis, quand vous êtes en direct et que vous avez généralement un retour, c'est généralement là qu'on met un petit bumper de retour, histoire que ça ait l'air un petit peu mieux.
La gueule, voilà.
Il faut savoir que Stan, qui est le fondateur de la web radio Synopsis, nous écoute en ce moment même. Non seulement il réagit sur Twitter, mais en plus il m'envoie des petits messages sur Facebook. Voilà. Stan. Donc...
Il dit des trucs genre, c'est bien, je te signe pour deux albums.
Génial. Ah, voilà, donc tu voulais nous parler d'un truc super super important par rapport à ce jingle là toujours, par rapport à cette entité sonore là, et c'est une question de bureau.
Un petit détail croustillant, ouais, parce que donc j'écoutais la version, le rendu, et je me... ça manque un peu de percu, faudrait le groupe là, des espèces de gars des Caraïbes qui ont plein d'instrus chelous, qu'il y a toujours dans les films, il y a généralement un mec avec un piano, un autre avec une contrebasse, et trois glandus avec des percus, hein, voilà, dans tous les clichés de films. Donc j'ai lancé l'enregistrement par-dessus le jingle, et j'ai tapé, mais vraiment c'était très spontané, j'ai dit, ah tiens, je vais faire ça, j'ai lancé et j'ai tapé sur mon bureau. Alors bon, c'est pas le même bureau, parce que j'étais dans les Vosges avec le bureau, ouais. J'avais une structure différente, mais un truc comme ça... Et c'était en rythme, parce que là, ça n'était pas. Il était vraiment plein de saloperies, hein, le bureau. Il était très sale. Ouais. Je sais pas, bon, là, j'ai une étagère, non. Enfin, voilà. ça produit un petit son bonus qui rend le truc plus authentique, parce qu'il n'y avait pas de batterie, il y a aucun vrai instrument.
Mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la plupart du temps, ces jingles et beaucoup de créations sonores, en général, utilisent beaucoup ce qu'on appelle des boucles qui existent ici et là, et notamment des boucles de GarageBand, qui est
un logiciel. Voilà, parce que je suis pas contrebassiste, j'aimerais bien d'ailleurs.
Oui. Non. Mais pour le coup, beaucoup de gens, alors pas forcément pour de la contrebasse, mais pour des effets sonores particuliers, par exemple des interférences radio, utilisent toujours les mêmes trucs là, tout à
le,
coup.
L'éclair, sur l'éclair et le tonnerre là, celui qui fait ça.
Ou le bruitage qui fait pom pom, des trucs comme ouais, ça. Ouais. Ou alors, pire, justement, des interférences radio que j'ai entendues, là, j'avais Spotify en aléatoire, j'ai entendu, c'est je sais plus quel titre, de Justice. Groupe Justice, quand même, qui réutilise salement une boucle GarageBand,
Archive
quoi.
Aussi, dans Part 4, là, on utilise beaucoup.
Là, d'accord.
Ah, c'est ignoble, là, écoutez, tu dis
c'est
non,
ça. Dès que tu sais que c'est des petits bouts de, comment dire, c'est des petits bouts de son que n'importe qui peut utiliser n'importe où, t'écoutes ça, tu fais, non,
y a
c'est sale, les mecs.
Là, parce qu'il y a les boucles qu'il y a, par exemple, dans le Golden Show, qui sont vraiment des petits morceaux complets qui durent 30 secondes à une minute, ouais. Alors que là les boucles que j'ai utilisées majoritairement, en fait, là il y a une boucle de contrebasse qui fait doum 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 doum, qui était très sympa, très punchy, ouais. Et je crois que c'est tout. Le reste, j'ai programmé une batterie, j'ai fait du clavier. On peut remarquer d'ailleurs qu'il y a une petite différence dans la version du bed,
ouais.
C'est j'ai allongé le thème, en fait, j'ai fait tourner vraiment en boucle la contrebasse et j'ai improvisé un petit truc au clavier pour allonger le truc en mode smooth.
Alors, pour l'anecdote du bureau, c'est très intéressant parce que cette anecdote-là, on avait raconté à pas mal de monde déjà, nous, autour
on
de nous en interne.
Un extrait de bureau sur Facebook pour hyper les gens, ouais.
Sur la page Facebook Radio Jeux Vidéo, que vous pouvez aller liker maintenant. D'ailleurs, je n'ai absolument aucune espèce de... Là, je suis vraiment en mode plug complet ce soir. Mais voilà, vous pouvez aller liker la page Facebook de Radio Jeux Vidéo.
Sur Facebook, hein.
Oui, voilà. Et puis surtout, on avait parlé un peu de ça donc autour de nous, et notamment à Concombre, qui était là dans un des premiers numéros. Et c'est intéressant parce que justement, je vais vous passer un petit extrait de ce qui se passe hors antenne, quelques secondes avant le direct, quand justement le jingle de l'émission passe. Qu'est-ce que les gens se disent, quelle est l'ambiance un petit peu juste avant le direct, juste avant qu'on prenne l'antenne le lundi à 21h, juste avant le début de l'émission.
Le vendredi à l'heure.
Le... Mais voilà, et notamment, vous allez entendre justement Concombre qui va chercher le bruit de bureau à l'oreille dans le générique.
Ah, c'est le truc qui fait tchan, 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 un peu aigu, voilà.
Voilà, donc on s'écoute tout de suite en off du générique. Que se passe-t-il juste avant le direct? Écoutez les coulisses, c'est dans le Player Club. 25 secondes.
Radio JV présente.
Alors, le générique. Hein. Ah oui, c'est pas la même chose.
Et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo.
J'essaye d'entendre le bureau.
Dossier, interview, chronique.
Ah, il est chouette.
Quiz. Durant une heure, tout
il est très chouette, bravo.
6 secondes. On passe en live dans 25 secondes. Tout va bien. Oh, faut que j'en se mon tweet, moi.
Chaque lundi dès 21h,
oui.
Inks et ses complices
oui.
débarquent pour vous parler jeux vidéo.
On est live dans 14 secondes.
Dossier, interview,
oui,
chronique,
oui.
rétrospective.
10 secondes.
Durant une heure,
attention les miches. 5 secondes.
Accrochez-vous, le Player Club.
Mais c'est nous. 20 secondes. Il y a une contrebasse.
Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo.
C'est vrai.
Dossier, interview, chronique.
10 secondes.
Rétrospective, quiz. Durant une heure,
attention. 5, 4, 3, 2, 1. Alors c'est très intéressant parce qu'on écoutait justement ce que vous venez d'entendre là aussi en off, et du coup j'ai même pas besoin d'annoncer à Aspic dans combien de secondes on revenait parce que ma voix le faisait.
L'autre Inks, l'Inks du passé.
Exactement, Inks de, je crois que c'est l'émission avec Del Piano qu'on vient d'entendre, c'était l'autre émission qui s'est fait seulement à deux pour le coup du Player Club, à l'exception de celle-ci en tout cas jusqu'à maintenant. Donc tu venais, on en discutait un petit peu, t'as aussi une petite chose à dire par rapport au synthé qu'on entend et qui fait
ouais, ça, je trouvais que le tout manquait de trucs qui fait jeux vidéo. On est généralement quand on écoute les émissions de jeux vidéo et pas forcément les nôtres, les autres trucs sur YouTube, etc.
Ah, ça m'a bitché.
Je suis très perçu parce que j'ai pas d'exemple. Mais généralement, il y a une espèce de truc en mode, oh, on va foutre du 8 bits, ou oh, on va foutre de la techno, ou oh, on va foutre un synthé moche. Donc j'ai foutu un synthé moche en mode un petit peu Doctor Who qui fait. Et franchement, dans la tête, hein, je pense.
Tu le tords un peu, ça fait ouah ouah ouah.
C'est ça, c'est pas loin. Mais ça permet en fait ce genre de petits aimants de casser la monotonie, parce qu'en fait t'as en gros 5 secondes de musique qui tourne un peu en boucle, et tout l'art du jingle, de la musique pop, hein, est de masquer la répétition en rajoutant des strates de trucs. Alors au début t'as la contrebasse, après t'as la batterie, après t'as la guitare, après t'as le bureau, après t'as les trompettes. Je suis particulièrement fier de la fin, de la toute fin des deux dernières secondes, qui est d'ailleurs réutilisée en virgule, le truc qui fait qui marche trop bien, je trouve. J'étais très content de ça, c'est très très efficace. Et je dis ça parce que je suis généralement pas autant content que ça de mes jingles. Voilà. Mm. Hein, c'est... Quand Inks me demande de faire un jingle, je lui dis, mais c'est sûr, il n'y a pas de jeune musique qui pourrait le faire mieux, c'est pas assez bon.
C'est intéressant, c'est vachement intéressant. Pour le coup, c'est marrant que tu parles de musique parce que j'ai l'impression que le processus se passe vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu fais les jingles, t'imagines vraiment un thème principal de manière générale et ensuite tu vas l'adapter en fonction des durées. Est-ce que je me trompe ?
Il faut déjà trouver un thème musical qui se connecte bien, ce qui n'était pas le cas du premier justement, qu'on a, mm-hmm. a refilé honteusement une émission qui avait moins de problèmes avec ce truc d'identité. Non mais le pire c'est que les concernés le savent très bien, hein. Sauf de me demander, j'ai dit ouais alors j'ai ça qui traîne, il s'en a pas voulu. Ils étaient oh trop cool. C'est marrant.
On passe pour des gros salopards en direct.
Non mais faut savoir que créer un jingle comme ça prend quand même un paquet d'heures.
Oui et puis hein. de manière générale dans la création musicale, de toute façon il y a beaucoup de réutilisation de choses que tu as déjà pensées.
Et puis en fait
ça fonctionne
bon
comme
dans
ça.
La création musicale c'est pas de créer de la musique, c'est de uh-huh. trouver la bonne idée en fait. Mm. La bonne idée déjà qui est une bonne idée et ensuite la bonne idée qui est continuable plus que deux secondes. Parce que ça c'est le syndrome du guitariste du dimanche. Ah. Hey les gars, j'ai trouvé un riff.
J'ai un accord.
Voilà, il y a absolument rien derrière, on peut rien faire avec, donc on s'en fiche en fait. Donc il faut un truc qui se continue, qui soit dans l'ambiance, qui prenne pas toute la place, hein, parce que évidemment si on arrivait avec un truc en mode ouais guitare solo en permanence, on pourrait rien mettre de voix là-dessus, hein, ça serait très sympa, mais ça serait une bonne pause musicale, mais pas un bon jingle. Et voilà, de la musique d'habillage, il faut qu'elle fasse son job. Il y en a qui font ça très très bien dans plein de grosses émissions. La musique du 20h de TF1, c'est tout le monde la connaît. Et en soi, elle fait parfaitement son job. Elle a défini ce qu'on attend d'une musique de générique qui fasse journal télévisé.
Oui.
Et mine de rien, on reprend n'importe quel élément qui compose cette musique, c'est-à-dire le synthé ou la manière de faire les tout, les trucs comme ça, et paf, direct, ça fera un journal télévisé, tellement c'est efficace et tellement on a ça dans la tête, quoi. C'est des petits éléments, des petits ingrédients qui évoqueront tout de suite aux gens telle ou telle ambiance. C'est comme quand on met on a des pâtes nature, on met du curry dedans, oh ça fait asiatique, ça fait un bien, tu vois, c'est l'astuce du petit ingrédient qui pose immédiatement le truc. Alors là dans le cas du Player Club c'est la contrebasse
qui est extrêmement présente et qu'on entend peu,
voilà,
dans d'autres compositions.
Qui lance le truc et qui justement contraste avec les autres émissions de Radio Zéro. Je crois pas que Radio Zéro 1 avant et Radio JV maintenant et Radio Kawa.
Vous toujours t'as vu l'URL, il y a une redirection, hein.
Voilà, donc et puis aussi il y a le coup des plusieurs versions, CF, FTL, où j'ai fait à peu près 50 versions.
Bien sûr, hein.
Différentes. Parce que
l'émission FTL, t'as recomposé, t'as fait une version metal, t'as fait une version hard rock, c'est assez fou.
Il y a plein de trucs, parce que quand le thème marche, on a envie de le décliner.
Oui.
Voilà, c'est
Effectivement. En parlant de thèmes qui marchent, et voilà, au début de l'émission, on a fait un petit peu le tour de ce que t'avais créé, sur lesquels t'avais travaillé. Toi, t'en as un particulièrement que t'aimes bien? Est-ce que ce serait simplement Player Club parce que c'est le plus récent et qu'il a quand même fallu développer tout un univers? Ou est-ce que t'en as d'autres qui te ressortent un peu comme ça?
Je suis content d'avoir réussi à faire un truc qui me plaise autant. Uh-huh. Pour le Player Club, parce que la créativité, c'est pas toujours un truc qu'on maîtrise et qu'on contrôle. Des fois, la créativité pond un truc et on n'en est pas si content que ça, et ça marche, mais sans plus.
T'es vénère aussi ou pas?
T'es vénère, je sais même pas comment j'ai réussi à le prendre, ce truc.
Cette anecdote est assez géniale aussi en parenthèse, parce que justement, enfin, on l'a fait.
J'avais écouté l'autre jour, j'ai dit, c'est vraiment moi qui fais ça, c'est une autre, ça ressemble vraiment pas à ce que je fais dans le rôle. Bon, bah, c'est cool.
Non, c'est vrai, on t'avait demandé un style totalement différent pour ça, ouais, j'avais fait le texte.
J'étais content du résultat, ouais.
Et t'avais fait la musique, et c'est clair que le jingle de T'es vénère ressemble absolument pas.
C'était vraiment un one shot, hein. J'ai essayé d'en faire une version longue, je suis pas arrivé à le décliner tellement c'est un style que je maîtrise.
C'est pas confortable.
En fait, je suis pas confortable, alors que FTL, je suis beaucoup plus confortable avec ce style-là. J'en ai même fait une version très longue de 5 minutes qui sera pour le fameux album que je vous ai déjà promis il y a un an et demi. C'est vraiment un an et demi, hein, l'émission de rentrée de l'été 2013,
c'était quand on avait lancé Radio Kawa et qu'on avait lancé plein d'émissions comme les démons du midi.
Je prépare un album regroupant tous mes jingles et des versions longues exclusives avec les vidéos les listes et tout, des machins comme ça. Bon, je suis toujours dessus. Il sera très bien, hein, parce que plus je passe de temps sur un truc, mieux c'est. Enfin, j'espère.
Un jour,
ça se prépare. Je montre à Inks régulièrement des trucs. Ça sera certain que vous en reparlerez, hein, évidemment.
Non, bien sûr.
Voilà, avec des petits remixes récents, je me suis attaqué par exemple à un thème de Warcraft 2 en mode orchestre. J'ai très la petite pépite.
Ah, ça devrait vous plaire, ça, effectivement.
Ça plaira à certains vieux de la vieille.
Oui. Mais malgré tout, on a aussi évoqué des jingles où voilà, t'as travaillé un petit peu moins parce que t'as repris. On parle donc de ceux de Pass le Stick notamment et les tauliers les plus connus.
Stick. Alors Pass le Stick, on a dû saucissonner un machin de Music Clip qui était super punchy. Alors
mais ça colle tellement bien.
Ça marche très bien. Alors pour ceci, attends, je crois qu'on l'a accéléré ou ralenti un petit peu. On a changé le BPM original.
Oui, celui de Respawn surtout, hein, où il y a eu un changement de BPM assez violent.
Respawn, mon dieu.
Et j'étais choqué au départ.
Oui, celui de Respawn où c'est un mode un truc super calme de Bastion qui fait.
Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Mais moi, je trouvais que ça marchait très bien parce que je connaissais pas l'original. J'avais pas écouté en boucle, contrairement à toi. Donc, je l'ai punchisé parce que Inks adore les génériques qui durent très peu, qui sont très courts, qui durent 10 secondes.
Ça, il faut savoir quand je commande un jingle à speak, je fais.
Plus de 10 secondes. Hein.
C'est ça. Genre, 10 secondes, tu me fais 15, je te fais 12, tu me fais 13, 10.
Final, bon, ça fait 22 secondes. Oh, il est cool comme ça. Il est long, hein, le générique du Player Club.
Oui, oui, oui. Mais il est tellement cool que franchement.
Voilà, donc. Non, pour ta gueule aussi, c'est pas c'est à moitié de musique originale. Le début est de moi. Le reste n'est pas de moi, à part le ta gueule, c'est moi qui essaye de gueuler ta gueule. Ouais, les tauliers, c'est de Houdini World Show, ludographie comparée aussi. Il y a même pas vraiment de jingle, en fait, pour ludographie comparée. C'est toujours le même morceau qui sert de bête d'intro. Ouais.
Exactement, c'est ma voix sur une reprise de Phoenix Wright, version jazz. Il y a un fantastique album qui existait, deux albums qui existent.
Projet jeu, par contre, c'est une vraie création originale. J'ai lutté d'ailleurs pour réussir à rentrer dans les vraiment 12 secondes que voulait Inks. Je suis un mal fou parce que.
Ça doit être court, c'est de la vidéo, ça doit être court.
Ouais. Mais c'est sympa, c'est dur à décliner. Je lutte pour en faire une version longue, mais je l'aime bien ce machin. Il est sympa. Il a un côté bien Rage Against the Machine que je voulais en fait. À la base, je voulais un truc en mode on est contre les cheveux et puis c'est cool.
Juste une question de Lions Banner qui te demande à Speak, tu as fait combien de titres? Alors j'imagine qu'il veut dire par là de jingle. Au total environ. Combien, je pense que ça peut se chiffrer en dizaines hein, à ce niveau-là.
Ça dépend si on voit aussi les virgules.
Ah oui, bien sûr. Bah, après,
pour le vidéoludiste, par exemple, il y a 6 bumpers, il y a 6 virgules sonores.
Ouais.
Rien que ça. C'est des bouts de jingle, en fait, qu'on saucissonne, que je saucissonne proprement, que je ressors pour que ça fasse 2-3 secondes. Donc, composé de thèmes vraiment, je sais pas, entre 10 et 20, je dirais.
Ouais, et puis en plus pour justement on parlait de Synapsave tout à l'heure, mais aussi les.
C'est pas un truc que j'aime faire tous les jours parce que c'est.
Non.
Je suis maniaque de la qualité et je déteste pondre un truc en mode une demi-heure c'est pondu, je fais des titres trop vite, t'as vu. Je déteste ça viscéralement. J'y arrive pas. Je serais pas satisfait d'un truc que j'ai pondu en une heure. Voilà. Je préfère passer 10 heures à faire de la merde et ensuite. Passer la dernière heure à faire un super truc et être content de ce super truc, même si je l'aurais fait en une heure au final, hein, mais c'est bête, mais. Non, il y a d'autres gens aussi qui font des jingles super, je peux quand même l'évoquer.
Fasque.
Il y a Faskill qui a fait des trucs pour les démons du midi, je crois.
Pour les démons du midi, même si, enfin, c'est plutôt l'utilisation d'une musique que d'un véritable jingle, ouais, par contre, pour, comment ça s'appelle, pour, il en a fait un pour Hotline Jenny.
Hotline Jenny, ouais.
Exactement, qui est très très chouette avec des extraits du Grand Détournement. Ouais, voilà. Ouais. Vraiment très 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 marrant,
DJ
la classe américaine.
DJ Pie aussi qui avait fait celui d'Inférieur à 3.
DJ Pie avait fait Inférieur à 3 dans un style vraiment très très
très personnel en fait, que
très
chip
tune. Hein.
J'étais très content.
Ouais, non, ça rendait très bien. On avait repris une musique de Risotto Show pour La Guerre de Troie n'aura pas lieu. C'était très très chouette aussi. Sa reprise de Tintin est très très chouette. Il faut aller l'écouter. Et puis voilà, globalement tout ce qu'on a en stock de ce côté-là. Question des jingles. Est-ce que t'as un mot de la fin à speak concernant les identités sonores, peut-être répéter aux gens pour l'album?
Bah ouais, qu'il y aura un petit album qui regroupera tout ça. Je pense, j'en profite pour l'annoncer, que les gens soient pas surpris. Je pense que je le mettrai sur un Bandcamp.
Ah.
Qui permettra de l'acheter pour le montant au choix. pour que les petits jeunes qui ont pas beaucoup d'argent puissent mettre un euro symbolique pour soutenir mes créations, parce que mine de rien les instruments virtuels ça se paye, hein. J'essaye d'utiliser des sons qui sont toujours de bonne qualité pour que ça soit réaliste et que ça soit sympa, et je tape généralement dans des machins qui sont un petit peu chers, en tout cas qui sont des vrais trucs professionnels. Je demande pas à d'aider le tromboniste du coin de la rue de me jouer un truc ou je pirate pas le dernier plugin à la mode. Voilà. Et comme conseil final, je sais pas, écoutez toujours les identités des émissions que vous aimez bien. Essayez de comprendre pourquoi cette identité vous donne envie ou pas envie d'écouter l'émission, parce qu'il y a toujours du boulot derrière. On écoute une musique, il y a le jingle et tout, mais en fait il y a toujours des petites mains qui ont fait ça et qui et mine de rien il y a une responsabilité. Si on commence l'émission par ça, il faut que ça représente l'émission, ça représente quand même un tout petit peu le style de ce qu'il fait. Enfin, il y a plein de trucs, et puis les voix dessus, c'est toujours marrant à faire les voix dessus. Enfin, voilà.
Je peux pas te dire le contraire, je fais beaucoup de voix pour ce jingle là et c'est toujours un plaisir. Je me marre toujours à gueuler devant mon micro
Et puis j'ai des rushs où tu dis 20 fois le player club on aurait dû le diffuser, ça aurait dû se donner le player club
ça sera pour une prochaine fois
le player club, quand tu essaies d'être sérieux, que tu te redresses devant ton micro en penchant un peu la tête vers l'avant, le player club. Et en fait c'est nul,
et en fait il y a aucune qui a été utilisée,
une prise sur 20 qui est bonne.
Bref, allez, sans transition, merci beaucoup Aspic
pour de m'avoir invité. Vous pouvez, attends, c'est toi qui le fais ou c'est moi qui le fais?
Non, mais l'émission n'est pas terminée, on se remerciera après, t'inquiète pas. Je te fais un petit bisou sur la joue, je te ferai le serrage de main après. On est d'accord?
Ok.
On est comme ça. Parfait. Parce que tout de suite, on va s'écouter un petit mashup best-of d'émission radio JV, exradio01.net, concernant la presse de jeux vidéo entre 2011 et 2014. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez en apprendre beaucoup si votre mémoire est courte ou si vous ne connaissez que depuis quelques mois. Bref, 4 ans de discussion sur la presse de jeux vidéo.
4 ans?
4 ans!
T'as sorti le gros truc, en fait.
Ouais! C'est parti!
D'accord, c'est parti.
Parti. Pour commencer ce retour sur la presse, nous nous rendons au Boudoir Gambetta, une ancienne émission de Radio JV, où Alvin et Chloé demandaient à Florent Gorge comment c'était d'écrire pour des magazines de jeux vidéo japonais.
Et alors dans le même temps, par contre, tu as eu le temps d'écrire pour des magazines de jeux vidéo? On a quelques-uns, c'était les magazines de l'époque, il y avait Total Cube, Game Fan, Japan Vibes. En tant que correspondant japonais, à l'époque, c'était beaucoup plus important. Comment ça se passe quand on écrit pour un journal qui est situé en France, alors qu'on est au Japon, surtout à cette époque?
Ben c'était pas forcément très différent d'aujourd'hui, sauf que c'est vrai que en 2003 le Japon avait déjà quand même beaucoup de succès auprès des jeunes et beaucoup de gens venaient déjà au Japon. Aujourd'hui ce serait un peu différent, mais il y avait déjà cette curiosité en 2003 quand on vivait au Japon, on avait un peu un statut auprès des geeks.
Sur internet tu devais être voilà.
Ben c'était surtout vrai en fait en 98-99 avec les premiers. Ouais, là par contre, c'est vrai que je sentais la différence. En 2003, il y avait déjà beaucoup de Français qui faisaient des allers-retours. C'était plus vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais en 97-98, ouais. Quand je retournais dans des réseaux un peu japonisants, tout le monde était autour de moi, me posait des centaines de questions et ça me faisait bizarre, quoi. Mais là aujourd'hui, plus du tout, hein. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, mais quand on va à Japan Expo, si jamais il y a un groupe de gens et qu'il y en a un qui n'a pas encore été au Japon, c'est un bouffon, quoi. Donc c'est la différence, elle est là maintenant. Mais à cette époque, voilà, quand on était correspondant au Japon, on travaillait déjà par le biais d'Internet. Hein. En 2002-2003, ils avaient déjà de la DSL à 32 mégas. Donc
les chanceux.
Ouais, au Japon, ils avaient déjà des lignes assez rapides. Donc on travaillait pas forcément différemment d'aujourd'hui. C'est juste qu'on pouvait parler encore de trucs un peu banals, puisqu'il y avait pas autant de sites que maintenant qui parlaient du Japon. On avait voilà.
Et comment ça se passait au niveau des relations éditeurs? C'est-à-dire, t'étais dans le circuit de la presse japonaise ou tu achetais tes jeux comme n'importe quel joueur japonais de base et tu chroniquais dessus?
Non, moi je faisais pas de chronique. En fait, je faisais pas de test de jeu. Déjà sur Total Cube, mon premier article c'était déjà un historique sur la Famicom.
Ah oui.
Donc je faisais uniquement déjà des trucs rétro. sur l'histoire de Nintendo notamment.
On voit que ça germait déjà, donc.
Ouais, bah, j'étais déjà à fond là-dedans. Et pour ce qui est de Japan Vibes, là, par contre, c'était beaucoup plus des tranches de vie. C'est-à-dire que c'est là que j'ai publié mes premiers articles sur le Framponnet. Donc j'avais une rubrique qui est revenue 2-3 fois où je postais des photos de Framponnet en mettant des commentaires, et c'est à partir de là que ça a commencé à marcher. Mais sinon voilà, dans la vie de tous les jours au Japon, je prenais des photos, j'avais toujours un appareil sur moi, et dès que je voyais un truc un petit peu rigolo qui sortait un peu de l'ordinaire, je prenais ça en photo, puis j'en faisais des articles, etc.
Quelques mois plus tard, en mai 2013, c'est Yvan Lefou, cofondateur de Canard PC, qui est venu, pour les 10 ans de son magazine, raconter sa création.
Et donc c'est pour ça qu'avec 4 autres anciens, vous prenez les indemnités que vous avez tous eues, vous les mettez ensemble, et puis vous réfléchissez quelques semaines, et puis ça donne naissance à Canard PC. Mmh. Comment ça se passe quand on prend la décision de monter son propre magazine en 2003, où on peut sentir que... c'est peut-être pas le meilleur moment du monde non plus.
Ah, ça c'est clair. Ça se passe sur une sorte de coup de tête, c'est-à-dire que bon, tout le monde est depuis 6 mois dans quand même dans la philosophie on va partir, ça va s'arrêter, qu'est-ce qu'on va faire, parce que ouais. Personne ne se voyait vraiment rester chez Futur, il n'y avait pas beaucoup de suspense de ce point de vue-là. On se gardait bien de leur dire pour les faire chier au maximum, mais à part ça, c'était voilà. Moi, j'étais pas spécialement parti dans l'idée que j'allais refaire de la presse de jeux vidéo. Et puis, en même temps, il y avait quand même une espèce de stimulation. Tout le monde se demandait un peu ce qu'on pourrait faire mieux, etc. Et les choses se sont vraiment... Alors, oui, tiens, on oublie, parce qu'il a pas duré longtemps, mais qu'il y a un autre projet parallèle à la naissance de Canard PC, qui était monté justement par l'ancien directeur de Hachette Disney Press, qui avait gardé la banque qui lui avait donné son accord pour racheter le truc qui s'était pas fait, et qui a lancé un magazine en même temps que Canard PC quasiment, qui s'appelait Gaming, qui se voyait comme un concurrent de jeux vidéo magazine, pardon. Donc un lancement avec beaucoup d'argent, beaucoup de papier dans les kiosques, et puis 6 numéros seulement. Voilà. Et c'est l'ancienne équipe de Gaming qui fonde Gameblog par la suite.
Justement, avec le recul, qu'est-ce qui fait que Gaming a échoué alors que vous avez 10 ans que vous tenez?
Bah, on n'avait pas d'argent. C'est pour ça qu'on a réussi. Non, mais c'est vrai. On avait de l'argent. J'en ai mis beaucoup, mais beaucoup à titre individuel, pas beaucoup pour une banque. Et c'est ça. On a été très, 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 très modeste et très, 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 très prudent. On n'avait pas du tout. On voulait. On cherchait, nous, à faire quelque chose de décalé, de quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qui était entre le web, qui commençait à vraiment prendre du pouvoir. Il faut voir que jeuxvideo.com, je crois que c'est 98, Gamekult, c'est 2000. À l'époque, il n'y a pas encore Facebook, c'est 2004, je crois. Mmh. Twitter, c'est 2006. On est dans la préhistoire. Hein.
Ouais.
Donc, mais déjà à l'époque, déjà en 2003, la bagarre entre le papier et le web, elle est bien, bien engagée et ça frite de toutes parts.
On commence à sentir au niveau des ventes, par exemple, que ça commence à décliner. Non, pas encore.
Non, ça se sent en premier lieu sur les budgets pub.
D'accord.
Et nous, on est très protégés là où on est de ça. Ça n'a pas d'impact sur nous. Mais on le sait. On sait qu'il y a de plus en plus d'annonceurs qui commencent à investir sur le web et qui donc investissent moins ailleurs. Donc nous, on se dit il faut changer le rythme de parution parce que nos lecteurs, ils aiment bien avoir le quotidien du web. Donc on va lancer, soyons cons, un hebdo. Et voilà, on cherche un peu, on se décale sur la périodicité, on se décale sur le prix parce qu'on est à moins de 2 euros alors que tous les magazines deviennent très très chers tout d'un coup.
Ouais.
Et on essaie de se décaler aussi sur le ton en faisant du joystick, mais en pire. C'est-à-dire encore plus libre, parce qu'à l'époque, on était quand même Hachette Disney Press. Et
ouais.
Disney a une certaine importance là-dedans. Donc, on fait gaffe quand même à ce qu'on écrit dans le joystick. On fait plus gaffe du tout dans le Canard PC. On écrit vraiment, pourvu que ça nous fasse rire, on le fait, en gros. Donc voilà, on cherche des décalages de tous les côtés en se disant, bon, bah, on est à une période où on ne sait pas encore qui va gagner entre le web et le papier. Essayons quelque chose. Un an après, c'est le web qui a gagné. Pas de problème.
Et alors comment on découvre ça, de devenir son propre patron sur son propre magazine sans avoir forcément diriger un hebdo de surcroît? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre d'occuper tous les postes, de faire et de l'administratif et en même temps de la rédaction et puis en même temps de décider de ce qu'on veut? Parce que d'habitude, quand on a quand même des lignes directrices de la direction, c'est peut-être différent que de décider soi-même qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on est d'accord pour le faire. Comment les débuts se font?
Les débuts se font dans une certaine insouciance, voire un grand aveuglement. Parce qu'on part d'un magazine qui vend 80 000 exemplaires. Et on se dit, facile.
Ouais.
Facile. Ils nous aiment tous. On prend les meilleures signatures.
Ils vont suivre,
forcément. C'est obligé. Allez, dans le pire des cas, on en convainc 1 sur 10. Ça nous fait 8 000 ventes. Pas de problème. Ça se passe pas du tout comme ça.
Le premier numéro fait combien?
Le premier numéro fait quelques milliers de ventes, mais vraiment pas grand-chose. Et puis, nous, on maîtrise bien. On n'a aucun souci sur l'éditorial. Moi, j'en fais pas partie, donc je le dis en toute modestie. On a des brutes vraiment sur le côté test, mais aussi pas seulement des gens qui connaissent le métier, mais des gens qui sont capables de travailler vite, bien et beaucoup. Donc
et d'être drôle en même temps en plus.
Ouais, avec une certaine constance. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Aucun d'entre nous n'a jamais créé de boîte, donc on découvre tout ça. Et finalement, c'est pas tellement le plus difficile, contrairement à ce qu'on croit. On a plus de difficultés avec le côté fabrication, parce que c'est quelque chose qui était géré chez Hachette, donc on découvre complètement les relations avec les imprimeurs, comment ça se passe, les tarifs, comment on paye. La redescente sur Terre, c'est le côté on sort du cocon protecteur d'une grande boîte qui fonctionnait bien pour nous, de notre point de vue, et qui nous protégeait à la fois des soucis matériels à la con tous les jours, savoir où il faut mettre l'extincteur, enfin ce genre de conneries, et puis la compta, parce qu'il faut commencer à farcir, mine de rien, et c'est très compliqué dans la presse. Ce genre de choses, et puis nos illusions sur le fait que on peut relancer un magazine sur nos noms et que les lecteurs vont suivre. Cinq ans après, il y a des lecteurs qui nous disent quoi, mais vous êtes là? Ah mais justement, je me demandais où vous étiez, parce qu'on se lance évidemment avec 0€ de com.
Oui.
Rien. Tout ce qu'on a. On le garde pour tenir le plus longtemps possible, on fait zéro. Comme.
Pas pu faire de mailing aux anciens abonnés, quelque chose comme ça?
Non, absolument pas. On n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est Gamekult qui accepte qu'on fasse un fil sur leur forum, gentiment, pour nous filer un coup de main. Mais comme je dis, Facebook n'existe pas, Twitter n'existe pas. Et là, ça manque clairement avec le recul.
Et tant qu'à parler création dans le milieu de la presse, revenons en 2011 dans le troisième numéro d'Étolier, où l'équipe discutait déjà des problématiques d'impression et de distribution des magazines.
On constate une déforestation monstrueuse.
Oui.
Les producteurs qui coupent un arbre doivent en planter deux. Dans la pratique, mon cul le font pas.
Oui, non, voilà, mais puis au-delà
du coup,
de ça,
le prix du bois augmente, le prix du papier augmente, parce que le bois aujourd'hui, on privilégie aussi le bois exotique
et le truc,
pour faire des meubles et le reste.
Et le truc, c'est pour en revenir vraiment au papier pur, quoi. C'est que faire un magazine ou un quotidien ou un journal, peu importe, avec du papier recyclé, ça coûte plus cher. Parce que si jamais tu veux respecter un pacte écologique en tant que méchant organisme de presse qui réalise quelque chose à partir de bois, d'accord ? Si jamais tu veux être à la page, ou du moins que tu veux respecter l'environnement, il faut que tu mettes plus de deniers sur la table, quoi.
Oui, et puis il faut pas oublier, ça, là, les gens n'y pensent pas, mais un papier recyclé, même un papier normal, pour le traiter pour que l'encre ne dégueule pas, c'est un calvaire.
Exactement.
Ça coûte une fortune.
Mais c'est pour ça, une période, je me disais que j'allais continuer background en recyclant du papier chiotte, et puis finalement, je me suis dit que c'était une mauvaise idée.
Parce que ça tâche.
C'est un peu du buvard, si tu veux.
Voilà, c'est du buvard.
Pour avoir testé le truc, hein, mais c'est vraiment...
parce que t'as testé le truc.
Ah bah bien sûr.
J'imagine bien le docteur Jean dans son laboratoire. Alors, je prends.
Je voulais absolument faire survivre background, donc j'ai essayé de trouver des solutions. Donc comme tous les petits indépendants, j'ai été tapé dans les pays étrangers, chez des imprimeurs. Moi j'étais imprimé par exemple en Espagne parce que le tout premier numéro de Background a été imprimé en Italie. C'était une catastrophe au niveau de la rigueur de l'imprimerie, etc. Voilà. Donc du coup, j'ai été en Espagne parce que je connaissais un peu les mecs, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que cette ouverture qui est arrivée plus ou moins avec l'Europe, d'accord, avec la constitution de l'Europe, a permis, si tu veux, à plein de petits organismes de presse de naître, parce que forcément on faisait des magazines à moindre coût dans les autres pays, mais qui a fait péricliter à une vitesse hallucinante, vertigineuse, le marché de l'imprimerie en France. Et ça, c'est la première des raisons, en fait, qui explique le fait qu'il y ait eu autant de problèmes, qu'il y ait eu le syndicat du livre qui gueulait une période, etc. Parce que, ben, tout simplement, on a délocalisé, donc on a privé des gens de travail ici, quoi. Même si, attention, hein, je ne dis pas que les imprimeurs sont à plaindre, bien au contraire, parce que ces enculés te font des tarifs mais complètement hallucinant, et il y en a qui payent, hein, donc ils sont pas à plaindre. Mais tout ça pour dire que voilà, la première raison, en fait, vient de l'impression elle-même. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison vient de la distribution, parce que la distribution, quand tu te fais distribuer dans ce pays, donc en gros, tu termines ton magazine, il est livré chez ton distributeur qui ensuite doit se démerder pour l'acheminer jusque dans ton kiosque préféré, ta librairie ou je ne sais quoi. Bon. Les distributeurs, donc en gros, c'est des camions, d'accord ? Bon, des camions qui vont aller distribuer machin, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, l'argent est le maître de tout ça parce que tu as la possibilité d'être mieux représenté en linéaire si tu payes. Tu as des agences qui sont spécialisées et qui vont aller faire une répartition dans certains kiosques parce qu'il y a une étude qui est faite comme quoi il y a tant de gens qui vont acheter dans tel kiosque, tel magazine, etc. Donc tu vas aller dans ces kiosques et au final tu vas te retrouver par exemple face à un groupe comme Yellow Media, d'accord, ou n'importe qui, hein, je veux dire, avec des magazines qui vont être devant le tien, ce qui fait que les gens vont pas le trouver ou alors vont le trouver ils vont trouver, je sais pas, deux exemplaires qui vont se battre en duel, et donc ils vont croire que ça se vend mal, et etc., etc. Et donc, c'est toute une espèce de... Je compare ça, en fait, à une énorme moissonneuse-batteuse. Et quand t'es petit, que t'as pas beaucoup d'argent, tu te fais broyer la gueule, parce que tu te retrouves, en fait, face à des Goliaths. T'as un petit David qui essaye de faire son truc, et tu te fais broyer par des mecs qui ont des tirages de 200 000 exemplaires, qui de toute façon inondent de partout, et qui, en plus, des agences pour être devant ou bien représenté ou sur des présentoirs. Résultat, tu l'as dans le cul, quoi. Voilà. Donc au final, toi, tu termines derrière en linéaire, t'es bien caché, sans compter les clauses de non-respect de concurrence, hein, avec des agences qui carrément vont planquer des magazines concurrents pour pas qu'on les trouve. Ça, faut savoir que ça existe. Ou alors, des sous-doiements, enfin, des comment dire, des messageries presse qui sont soudoyées par des gros groupes, pour que carrément, lors de la répartition, quand ça arrive dans le kiosque, etc., ce soit mis dans un autre rayon. Donc tu cherches Background, par exemple, je cite mon magazine, hein, et tu vas le retrouver Bien-être et Beauté. Il est évident que mon public va dans Bien-être et Beauté, vu les gueules d'enterrement qu'il me disait, tu vois.
Bon, c'est vrai que par contre, si tu mets la Joconde, fais gaffe à pas te retrouver devant Art Deco, quand même. Mais!
Bon, enfin, tout ça pour dire que voilà, il y a tout un système qui te broie la tronche quand t'es indépendant. Par rapport, par exemple, au magazine, faut savoir aussi que quand tu tires un certain nombre d'exemplaires, mettons, tu vas tirer 50 000 exemplaires. Un chiffre moyen de vente par rapport à 50 000 exemplaires, c'est à peu près entre 35 et 45%. Là, tu fais une réussite. C'est-à-dire qu'il te reste 60% sur les bras. Alors, pendant un certain laps de temps, parce que t'as négocié le truc avec ta messagerie, tu vas pas payer la destruction de tes magazines. Après, tu la payes. C'est-à-dire que, en gros, t'es payé à hauteur, par exemple, je sais pas, un magazine qui coûte, l'exemple de Console Plus ou de Joypad hors série qui fait 7 euros ou je sais plus combien, qui est une honte d'ailleurs parce qu'ils sont à même pas 100 pages, ils ont de la pub à l'intérieur et leur papier franchement ne mérite pas ça. Bon. Donc imagine-toi 7 euros là-dessus, les mecs tirent à 50 000 exemplaires et vont en vendre, c'est le chiffre moyen d'une vente chez Yellow à l'heure actuelle, c'est 10-15 000 à peu près, Et encore, je suis gentil, d'accord? Parce que certains, c'était carrément... Je crois que Joypad, à un moment, avait atteint les 7500. Donc, c'est pour te dire que par rapport aux 100 000 dont on parlait, etc., on n'est plus du tout dans l'ère de l'Eldorado. Mm. Bref, tout ça pour dire que si jamais ils tirent 50 000 exemplaires et qu'il y en a 7500 qui se vendent, ça sous-entend que le pourcentage que tu n'auras pas atteint de vente, tu vas te le bouffer dans la gueule. C'est-à-dire qu'on va te payer un prorata qui est fixé par rapport à tes ventes. Par exemple, si jamais tu franchis les fameux 35%, d'accord, tu vas être payé relativement bien sur le prix d'un magazine. Par exemple, sur, je sais pas moi, sur 5,50€, puisque c'est le prix moyen, tu vas toucher, allez, peut-être 3€, quoi, tu vois, mm-hmm. sur chaque magazine. Par contre, si jamais t'atteins pas ce chiffre, qui, la plupart du temps, n'est pas atteint pour toutes les choses que j'ai expliquées avant, d'accord ? Ou parce que t'as fait un magazine de merde, ou parce que les gens l'ont pas trouvé, ou parce qu'il y a un désaveu pour ce que tu fais, d'accord ? Admettons. Eh ben, tu vas te le bouffer dans la gueule. C'est-à-dire que on va pas te payer la même chose en fonction de ce que tu vas, de ce que tu vas vendre. C'est-à-dire que si tu vends, par exemple, 10% de ton magazine, au lieu de toucher 3€ par magazine, tu vas toucher 1,75€. Et bah là, c'est plus du tout la même chose pour rentrer dans ses frais.
Enfin, et c'était en juin 2014, l'athlète Boudoir Gambetta interviewait Rodolphe Denain, rédacteur en chef de feu JVN.com, et racontait l'histoire entre JVN.com et jeuxvideomagazine.com.
Bah oui, parce qu'en parallèle, donc la fin de Merced signifie la fin de plein de magazines de jeux vidéo qui ferment... Enfin, clé sous la porte, c'est terminé, on ne les reverra plus, sauf un. Jeuxvideo Magazine, qui est repris par ses dirigeants, enfin les personnes de la rédaction, qui lancent leur propre société, Link Digital Spirit. Et ils vont également lancer leur propre site, jeuxvideomagazine.com. Uh-huh. Et là, le jour où ça se lance, bah, c'était un peu la méga surprise sur tout l'internet francophone. On se dit, mais je vois double ou c'est exactement le même site, copié-collé?
Il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu une tentative de conciliation, puisque Link Digital s'arrogeait le droit d'utiliser à la fois l'URL mais également le contenu, et donc il y avait une tentative de conciliation qui avait été faite mais qui avait abouti sur rien. Et donc nos dirigeants à nous choisissent de revenir sur jvn.com. Donc on se reprend moins 50%. Enfin, c'est le tarif. Et donc on est descendu là à 150 000 VU, tu vois. Enfin, sachant qu'on avait fait une pointe bien avant 720 000. Enfin, la chute est quand même est quand même super violente.
Vous étiez quand même vraiment en train de monter, ouais. Et là vraiment ça finit de casser le truc, quoi.
Complètement, ouais. Et donc on repart sur jvn.com avec l'essentiel de notre contenu, et on se dit voilà, au moins il n'y aura pas de litige sur jeuxvideomagazine.com. Et 3 jours après avoir lancé jvn.com, qu'est-ce qu'on voit arriver? Jeuxvideomagazine.com avec notre contenu en date de mi-octobre de l'année précédente.
Donc juste avant la cessation.
À une époque où légalement personne n'est en droit de s'arroger le contenu de Canal Jeux Vidéo, puisque je rappelle que les dirigeants sont différents, donc que les deux sociétés sont différentes. Et à tel point qu'on retrouve même les mentions légales de Canal Jeux Vidéo sur ce nouveau site. C'est-à-dire que copyright Canal Jeux Vidéo.
Ils ont vraiment clairement juste changé le logo et remis le backup en place.
Ouais, c'est vraiment un backup sauvage. Et là... Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait ça, j'ai envie de dire?
Donc, la situation est compliquée, c'est-à-dire que vous-même, vous reprenez JVN en main, entre guillemets, parce que l'actionnaire qui restait de Canal Jeux Vidéo en lui-même refait faillite. Donc, à ce moment-là, vous essayez de sauver le site tout en attaquant Jeux Vidéo Magazine, parce que il n'est pas question que Canal Jeux Vidéo attaque, puisque Canal Jeux Vidéo est en train de mourir. Donc, vous êtes attaqué à titre personnel pour pouvoir reprendre le site sur lequel vous êtes en train de travailler.
Le but à la base, c'est même pas de reprendre le site. Ça, c'est un truc qui va nous trotter dans la tête à la fin de l'histoire Canal Jeux Vidéo. Mais dans un premier temps, c'est juste de se dire ce qui arrive est injuste. 4 ans de notre travail qui a été pris par des gens qui n'ont absolument pas bossé dessus, en s'arrangeant ce droit via un papier signé par un tribunal de commerce, qui est pas une juridiction, hein, je le rappelle.
C'est parce qu'on se testait en tout cas. Mais...
Voilà. Non, ce n'est pas normal. Il y a un sentiment de trahison très fort quand même, sachant que nous en plus on s'était réjouis à l'époque quand même du rachat de Jeux Vidéo Magazine par d'anciens collègues. On l'avait même promu sur JVN en disant ouais c'est super, ils vont retrouver du boulot. Ils
voilà, qu'il y ait au moins un magazine qui soit sauvé sur le voilà. lot, c'était déjà.
Et là tu te retrouves avec des gens qui face à toi te brandissent juste un papier d'un tribunal. C'est-à-dire que les relations humaines, les relations professionnelles, tout ça est balayé par un papier de tribunal. C'est pas la façon dont on fonctionne. Donc très vite, on se dit qu'attend notre société pour les attaquer. Et là, on nous dit on n'a plus un rond. On va essayer de vous payer là, mais on n'a pas de quoi aller en justice. Et donc là, c'est nous les journalistes qui allons prendre notre destin en main, tout simplement pour faire cesser ce doublon incroyable, quoi. Parce qu'il y a un sentiment d'injustice qui est invivable au quotidien.
Puis c'est également, il y a deux sites identiques qui sont l'un en face de l'autre. Enfin, Google n'apprécie pas du tout.
Non, on se prend de nouveau ce qu'on appelle du duplicate content chez Google, donc du contenu dupliqué, pour parler en bon français. Et Google déteste ça et donc pénalise tout le monde. Donc, on se retrouve avec des scores, des chiffres d'audience absolument lamentables. Et ce qui est assez amusant à l'époque, amusant, c'est peut-être pas le mot à employer, c'est le fait que, autour de nous, finalement, il y a très peu de réactions. Du point de vue de l'industrie, très peu de réactions, alors que moi, le jour où je vois deux sites quasiment identiques, deux personnes que je connais avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, je réagis immédiatement et j'essaie de savoir ce qui se passe. On a des réactions quand même personnelles de plusieurs collègues de la presse qui vont, j'en ai deux en face de moi qui vont chercher à savoir ce qui se passe, tout simplement. Et il y a juste un média qui s'intéresse à nous pour savoir ce qui se passe. Et c'est peut-être le média le plus décrié dans le web francophone de jeux vidéo, c'est Gameblog, avec le journaliste le ménestrel le plus décrié, mais qui a au moins le mérite, et ça, c'est tout à son honneur de m'interviewer, de savoir ce qu'il en est, qui interviewe également la partie adverse et qui en fait un résumé tout à fait objectif dans un article qui permettra à un plus grand nombre de personnes de comprendre ce qui est en train de se passer. Et là, on se dit, mais il y a quelque chose de bizarre au fait que cette industrie ne cherche pas à savoir ce qui se passe face à un fait qui est choquant. À titre individuel, quelques personnes vont nous assurer leur soutien une fois qu'ils auront su ce qui s'est passé. Enfin, une fois qu'ils auront eu ma version, qui, je pense, n'est pas mensongère. Mais sinon, bizarrement, ça choque personne. Alors que moi, je trouve ça très choquant.
Tu serais attendu à ce que les autres sites fassent des articles sur ce qui se passait chez leurs confrères ?
Très honnêtement, oui. Parce que pour des gens qui, à longueur d'année, se plaignent du fait qu'ils n'accèdent pas, par exemple, au studio pour avoir les informations qu'ils peuvent, qu'ils ne peuvent pas faire donc de ce fait d'investigation. On ne demandait pas aux gens de prendre parti, ça n'a jamais été notre point de vue. Mais simplement de dire, ok, on est dans un milieu où il y a deux sites qui existent avec le même contenu, qui a été écrit par toutes les personnes qui sont sur l'un et pas du tout sur l'autre, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Présenter, on ne demandait pas de prendre position. Mais j'ai trouvé ça très choquant que la presse n'en parle pas. Mais ça, c'est l'éternel problème de on ne fait pas de vagues parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. La quantité de problèmes qu'on a actuellement dans ce petit milieu viennent du fait de la précarité. La précarité, elle est à la fois chez les éditeurs qui se portent presque tous très mal, elle est encore plus dans les médias, chez les journalistes, j'ose même pas en parler, on pourrait parler des tarifs de pige que certains doivent accepter. Tout le monde est précaire. Donc dès lors, une fois que t'es précaire, t'as tendance à ne pas faire de vagues, à ne pas revenir sur ce qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, empêcher ton avenir d'être non pas rose, mais ou rose très très pâle, on va dire. On se retrouve face à ça, et même si on a, à titre individuel, des soutiens, d'un point de vue traitement de l'information, moi je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Il y a Chloé qui est là, tu vois, Chloé, elle nous avait vu juste avant, on avait discuté ensemble, et elle voulait venir carrément au procès pour assister aux audiences. Elle a pas pu le faire pour des raisons personnelles, Mais ça, c'est une vraie démarche de journaliste, j'ai envie de dire. Notre métier, ça consiste pas simplement à se plaindre du fait qu'on a accès à très peu d'informations et finalement se cantonner à des choses qu'on critique, à savoir des news, des dossiers et des tests. Il y a aussi tout un aspect économique, tout un aspect social et humain qu'on se doit de traiter. Et là, rien du tout, tu vois.
De 21h à 22h, le Player Club.
Voilà, c'est tout pour ce 17e numéro du Player Club. Merci à Speak de m'avoir rejoint dans cette folle aventure.
Eh ben, de rien, Inks. Merci de m'avoir invité dans cette folle aventure.
Oui, on te retrouve très bientôt. Radio JV, Radio Kawa, Magoyonde.
C'est ça, mon groupe.
Exactement. Et puis, at Speak the Snake sur Twitter.
Totalement.
La semaine prochaine, le Player Club revient en forme totalement normale, hein, voilà,
totalement
le Player Club.
Totalement tout vert, parce que là, il était un petit peu vert pâle.
Voilà, tout va bien se passer. On va avoir un numéro consacré aussi un petit peu à la presse, mais cette fois-ci, eh bien, au traitement du jeu vidéo par la presse généraliste, notamment Le Monde et Le Figaro, avec deux invités déjà annoncés, William Audureau de Pixel, la rubrique jeux vidéo du Monde, et Chloé Vautier du Figaro.fr, qui est aussi évidemment une contributrice récurrente sur les émissions Radio JV. Voilà, laissez-moi vous dire que, eh bien, oui, il faut le dire, le Player Club est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain, 21h en direct, chez nos partenaires de la radio Synops Live, et 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio JV, radiojv.com. Et après, passe le stick, c'est... Non, on le dit pas encore pour l'instant. Après le Player Club, c'est pas Slastic. Bonsoir, Kokobé.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Bah, ça va bien, surtout que maintenant on va être un petit peu par la pression du direct et du temps qui passe,
yes,
puisque on a des choses après nous, n'est-ce pas? Donc,
vous avez de nouveaux voisins? C'est vos amis de...
On a de nouveaux voisins, hein. Ils sont sympas. On est allé manger, on est allé un petit peu faire la fête des voisins avec.
Oui,
c'était cool. Ils ont du cidre.
C'est
cool.
Comics Outcast, ça va commencer après vous vers 23h, pas à 23h pile. Vous avez toujours le droit de déborder.
Ouais, c'est pas Slastic, ouais, on va essayer de moins déborder que d'habitude,
oui,
mais c'est toujours très compliqué parce que nous sommes passionnés, nous payons en crédit passion et les intérêts sont toujours débordants, n'est-ce pas?
Au programme d'une émission qui ne déborde pas, on retrouvera quoi ce soir?
On retrouvera notre ami Rémi d'Un Drop dans la Mare, avec qui on parlera de l'avenir de la presse JV en ligne, et ça sera déjà bien puisqu'il n'y a toujours pas de jeu qui sort, donc on peut pas en tester malheureusement, c'est toujours le problème.
Oh là là, et ben bonne émission à vous.
Saucisse.